il ne nous restait plus rien à faire sur la Sara. Tous quatre, chargés de nos quatre ballots, descendîmes sans bruit dans l'aïeule et laissâmes derrière nous le navire muet comme la tombe, sauf quelques vagissements d'ivrogne. La couche de brume reposant sur l'eau s'élevait à hauteur de poitrine. Dutton, celui qui savait le chemin, était obligé de se tenir debout afin de diriger notre nage, ce qui nous forçait de ramer doucement, mais aussi nous sauva. Nous étions encore peu éloignés du navire quand l'aube commença à poindre et les oiseaux à tournoyer au ras de l'eau. Tout à coup, Dutton se laissa retomber sur son séant et nous susurra de ne plus faire le moindre bruit et de prêter l'oreille. Nous entendîmes, indéniable, un très léger bruit d'aviron sur un bord, et puis, mais plus éloigné, un bruit d'aviron de l'autre. Il était clair qu'on nous avait aperçus la veille. C'étaient les embarcations du croiseur qui venaient nous couper la retraite, et nous étions pris entre les deux, sans défense. Jamais à coup sûr, on ne vit pauvres âmes en un péril aussi imminent, et, tandis que nous restions penchés sur nos avirons, à prier Dieu que le brouillard tînt, la sueur me ruisselait du front. Alors nous entendîmes l'une des embarcations passer si près que nous aurions pu lancer dedans un biscuit. « En douceur, les hommes !» disait bas un officier, et je crus qu'il entendrait battre mon cœur. « Ne nous occupons plus du sentier, » dit Ballantrae, « à tout prix nous mettre en sûreté. Nageons droit au rivage. » Nous lui obéîmes avec les plus grandes précautions, nageant du mieux possible, presque couchés dans le fond de l'aïeule, et nous dirigeant au hasard dans la brume qui restait notre unique protection. Mais le ciel nous guida, et nous allâmes toucher contre un buisson, escaladâmes la rive avec nos trésors, et, la brume commençant à se dissiper, faute de pouvoir cacher autrement l'aïeule, nous la chavirâmes pour la couler. À peine étions-nous à couvert que le soleil se leva, et en même temps, du milieu du bassin, une grande clameur s'éleva et nous apprit que la Sara venait d'être abordée. J'entendis par la suite faire grand honneur de son exploit à l'officier qui s'en empara, et à la vérité, il s'en était approché avec assez d'habileté, mais je soupçonne qu'une fois à bord, la capture fut aisée. Je précise ici qu'on ne doit pas confondre ce Teach de la Sara avec le célèbre Barbe Noire. Les dates et les faits ne concordent en rien. Il est possible que le second ait emprunté à la fois le nom et imité les allures du premier dans ce qu'elles avaient d'excessif. Même le maître de Ballantrae eut bien des imitateurs. Je rendais grâce au saint de notre évasion lorsque je m'aperçus que nous étions tombés en d'autres maux. Nous avions abordé au hasard sur la côte d'un marécage étendu et périlleux, et l'entreprise d'arriver au sentier était pleine d'aléas, de fatigues et de dangers. Dutton était d'avis d'attendre le départ du croiseur pour aller rechercher l'aïeul, car tout délai serait plus sage que de nous lancer à l'aveuglette dans ce marais. L'un de nous retourna donc au rivage, et regardant à travers le buisson, vit le brouillard complètement dissipé, et le pavillon anglais flottant sur la Sara, mais nul préparatif pour son appareillage. Notre situation devenait fort inquiétante. Le marais était un lieu des plus malsains. Dans notre rage d'emporter des richesses, nous avions presque négligé les vivres. Il était nécessaire, en outre, de quitter ce voisinage et d'arriver aux colonies avant la nouvelle de la capture. Et, pour balancer toutes ces considérations, il y avait en regard les périls de la traversée. Rien d'étonnant à ce que nous nous décidâmes pour l'action. La chaleur était déjà étouffante lorsque nous entreprîmes le passage, ou plutôt la recherche du passage, à l'aide du compas. Dutton prit l'instrument et l'un de nous trois se chargea de sa part du trésor. Je vous assure qu'il surveillait activement le porteur, car c'était comme son âme qu'il lui avait confiée. La brousse était aussi dense qu'un fourré, le terrain absolument perfide, si bien que souvent nous nous enfoncions de la plus terrifiante manière et qu'il fallait faire un détour. La chaleur du reste était accablante, l'atmosphère singulièrement lourde, et les insectes piquants abondaient par myriades, au point que chacun de nous marchait sous sa nuée propre. Ce fait a souvent été commenté que les personnes bien nées supportent la fatigue beaucoup mieux que les gens du commun, en sorte que les officiers forcés de marcher à pied à côté de leurs hommes les humilient par leur endurance. La chose se vérifia une fois de plus, car nous étions là deux gentilshommes des meilleures familles, d'une part, et de l'autre Grady, un vulgaire matelot, d'un développement physique quasi gigantesque. Dutton resta hors de cause, car j'avoue qu'il se comporta aussi bien que nous. Mais Grady, lui, ne tarda pas à se lamenter sur son sort. Il restait en arrière, refusait de porter le ballot de Dutton lorsque venait son tour, réclamait continuellement du rhum, nous n'en avions que trop peu, et finit même par nous menacer de derrière avec son pistolet tout armé si nous ne lui accordions du repos. Ballantrae aurait voulu le combattre, mais je l'en dissuadai, et nous fîmes halte pour manger quelque chose. Ce repas ne fit guère de bien à Grady. Il recommença tout aussitôt à rester en arrière, grommelant et murmurant contre son sort, et finalement, faute d'attention à marcher exactement sur nos traces, il trébucha dans un endroit du bourbier où l'eau était profonde, poussa quelques cris affreux, et avant que nous eussions pu le secourir, il avait disparu avec sa charge. Sa faim et surtout ses cris nous terrifièrent. Cependant, la circonstance fut en somme heureuse et contribua à notre salut. En effet, Dutton eut alors l'idée de grimper sur un arbre d'où il put distinguer et me désigner, car j'étais monté derrière lui, un boqueteau élevé qui repérait le sentier. Il s'avança ensuite d'autant plus négligemment, je suppose, car peu après, nous le vîmes s'enfoncer un peu et retirer ses pieds pour enfoncer de nouveau, et cela par deux fois. Alors il se tourna vers nous, très pâle. « Donnez-moi un coup de main, dit-il. Je suis dans un mauvais endroit. » « Je m'en moque, » dit Ballantrae, s'arrêtant. Dutton éclata en blasphème violent, s'enfonçant toujours davantage, tandis que la lise atteignit presque sa ceinture. Il tira un pistolet. « Aidez-moi, s'écria-t-il, ou bien mourrez, soyez damnés !»« Non, » dit Ballantrae, « je plaisantais, et me voici. » Et il déposa son ballot avec celui de Dutton, que c'était son tour de porter. « Ne vous risquez pas plus près, tant que je ne vous appelle, » me dit-il, en s'avançant tout seul vers l'homme enlisé. Celui-ci à présent restait tranquille, mais tenait toujours son pistolet, et la terreur que décelaient ses traits m'émut profondément. « Pour l'amour de Dieu, dit-il, faites vite !» Ballantrae était tout proche de lui. « Ne bougez pas, dit-il, et il sembla réfléchir. Puis, « Tendez-moi vos deux mains. » Dutton déposa son pistolet, et la surface était si aqueuse qu'il fut absorbé et disparut aussitôt. Avec un blasphème, il se baissa pour le reprendre, mais au même instant, Ballantrae se pencha et le poignarda entre les épaules. Ses deux mains s'agitèrent au-dessus de sa tête. Je ne sais si ce fut de douleur ou pour se défendre, mais une seconde plus tard, il retombait le nez dans la vase. Ballantrae en avait déjà par-dessus les chevilles, mais il se dépêtra et revint vers moi. Mes genoux s'entrechoquaient. « Le diable vous emporte, Francis, dit-il. Je crois après tout que vous n'êtes qu'un poltron. Je viens de faire justice d'un pirate, et nous voici entièrement libres de la Sahara. Qui peut dire à présent si nous avons trempé dans quelque irrégularité ?» Je lui assurai qu'il me faisait injure, mais mon sens de l'humanité était si touché par cette action atroce que le souffle me manquait pour lui répondre. « Allons, dit-il, tâchez d'être plus résolu. Notre besoin de cet homme cessait du moment où il vous avait montré le sentier, et vous ne nierez pas que j'eusse été fou de laisser échapper une si belle occasion. » J'ai reconnu qu'il avait raison, en principe. Néanmoins, je ne pouvais m'empêcher de verser des pleurs, nullement déshonorants. Et il me fallut boire une gorgée de rhum pour me rendre la force d'avancer. Je le répète, je suis loin d'avoir honte de ma généreuse émotion. La pitié honore le guerrier. Et cependant, je ne saurais tout à fait blâmer Ballantrae, dont le geste fut réellement heureux, car nous trouvâmes le sentier sans autre mésaventure, et le même soir, vers le coucher du soleil, nous atteignîmes l'extrémité du marais. Nous étions trop harassés pour aller plus loin, sur le sable sec, encore échauffé par les rayons du matin, et à l'abri d'un bois de pin, nous nous couchâmes et fûmes aussitôt plongés dans le sommeil. Nous nous éveillâmes très tôt, fort abattus, et commençâmes un entretien qui faillit dégénérer en coup. Nous étions là, jetés sur la côte des provinces du Sud, à 1000 miles de tout établissement français, Voyage redoutable, au cours duquel nous attendaient mille périls, et à coup sûr, si notre amitié fut jamais nécessaire, c'était en pareille heure. J'imagine que Ballantrae avait perdu le sens exact de la politesse. En fait, ma supposition n'a rien d'étrange, après notre longue cohabitation avec de tels loups de mer. Mais bref, il me rabroie si grossièrement que tout homme d'honneur s'en serait formalisé. Je lui dis sous quel aspect je voyais sa conduite. Il s'éloigna de quelques pas, tandis que je le suivais, parlant toujours. Enfin, il m'arrêta d'un geste. « Francis, dit-il, vous savez ce que nous avons juré. Cependant, il n'existerait pas de serment capable de me faire avaler de pareilles expressions si je ne vous étais sincèrement attaché. Il est impossible que vous en doutiez, vous en avez la preuve. Il me fallait emmener Dutton, parce qu'il connaissait le passage, et Grady, parce que Dutton ne voulait pas marcher sans lui. Mais quel besoin avais-je de vous? Vous êtes pour moi un danger perpétuel avec votre maudite langue irlandaise. Régulièrement, vous devriez être à cette heure au fer sur le croiseur, et vous me cherchez noise puérilement pour des vétilles. » Je considère ce discours comme un des plus désobligeants qui furent jamais, et aujourd'hui encore, je ne puis concilier son souvenir avec celui du gentilhomme qu'était mon ami. Je lui renvoyais que son accent écossais, sans avoir rien d'exagéré, suffisait néanmoins à le rendre incorrect et ridicule, et comme je parlais sans circonlocution, l'affaire aurait pu aller loin s'il ne s'était produite une alerte inquiétante. Nous avions fait quelques pas sur le sable. L'endroit où nous avions dormi, avec les ballots tout défaits, et de l'argent éparpillé alentour, se trouvait alors entre nous et les pins, et ce dut être de derrière ceux-ci que l'étranger sortit. En tout cas, il y avait là devant nous un grand et solide gaillard du pays, portant une large hache sur l'épaule, qui regardait bouche bée tantôt le trésor juste à ses pieds, et tantôt notre combat, car nous venions de tirer nos épées. À peine l'eûmes-nous remarqué, il retrouva l'usage de ses jambes et s'éclipsa derrière les pins. Cette apparition était peu propre à nous rassurer. Deux hommes armés et vêtus en marins, que l'on trouve se quereller auprès d'un trésor, non loin de l'endroit où l'on vient de capturer un pirate, c'en était assez pour nous amener tout le pays. La querelle ne fut pas simplement interrompue, elle nous sortit de l'esprit. En un clin d'œil, nos ballots étaient refaits et nous repartis, courant de la meilleure volonté du monde. Mais le malheur fut que nous ne connaissions pas le chemin et qu'il nous fallut sans cesse retourner sur nos pas. Ballantrae avait en effet tiré de Dutton tous les renseignements possibles, mais il n'est pas aisé de voyager par ouï-dire. Et l'estuaire, qui forme un vaste havre irrégulier, nous présentait de tous côtés une nouvelle étendue d'eau. Nous en perdions la tête et n'en pouvions plus de courir, lorsque, arrivant au haut d'une dune, nous nous vîmes encore une fois coupés par une autre ramification de la baie. Cette crique-ci, toutefois, était très différente de celle qui nous avait arrêtés auparavant. Elle était formée par des rochers si abruptement taillés qu'un petit navire avait pu y aborder tout contre et s'y amarrer. Même son équipage avait disposé d'une planche pour accéder au rivage. Là auprès, ils étaient assis, autour d'un feu, à manger. Quant au navire, c'était un de ceux que l'on construit aux Bermudes. La soif de l'or et la grande haine que chacun nourrit envers les pirates étaient bien de quoi lancer tout le pays à nos trousses. De plus, nous n'étions maintenant que trop certains de nous trouver sur une sorte de presqu'île découpée à l'instar des doigts de la main, et le poignet, c'est-à-dire l'accès à la terre ferme, que nous aurions dû suivre tout d'abord, était à cette heure probablement gardé. Ces considérations nous firent prendre un parti des plus téméraires. Aussi longtemps que nous l'osâmes, nous attendant sans cesse à percevoir des bruits de poursuite, nous restâmes couchés derrière les buissons sur la dune. Puis, ayant repris haleine et un peu plus présentable, nous descendîmes enfin, affectant un air très détaché, vers la compagnie assise auprès du feu. C'était un trafiquant et ses nègres du port d'Albany, dans la province de New York, qui revenait des Indes avec une cargaison, je ne puis me rappeler son nom. Nous fûmes stupéfaits d'apprendre qu'il s'était réfugié ici par crainte de la Sarah, car nous n'avions pas idée que nos exploits fussent si notoires. Dès que l'Albanien sut qu'elle avait été prise la veille, Il se leva d'un bond, nous donna un gobelet de rhum pour notre bonne nouvelle, et envoya ses nègres mettre à la voile sur le Bermudan. De notre côté, nous profitâmes de la goutte pour devenir plus communicatifs et nous offrir à la fin comme passagers. Il regarda de travers nos vêtements tachés de goudron et nos pistolets, et répondit poliment qu'il n'avait pas trop de place pour lui. Impossible, ni par nos prières, ni par nos offres d'argent, de plus en plus fortes, d'ébranler sa résolution. « Je vois que vous n'avez pas confiance en nous, » dit Balintré, « mais je vais vous prouver la nôtre en vous disant la vérité. Nous sommes des jacobites fugitifs, et nos têtes sont mises à prix. » Ce discours toucha visiblement l'Albanien. Il nous posa sur la guerre en Écosse maintes questions, auxquelles Balintré répondit fort patiemment. Puis, avec un clin d'œil et d'un ton vulgaire, l'homme conclut « Il me semble que vous et votre prince Charles en avez pris plus que vous ne le désiriez. » « Parbleu, c'est bien ça, dis-je. Et, mon cher ami, je souhaite que vous en donniez une nouvelle preuve en nous prenant à votre bord. » Je dis cette phrase à la façon irlandaise, que l'on s'accorde à trouver assez plaisante. C'est un fait remarquable et qui témoigne de la faveur avec laquelle on regarde notre peuple, que cette façon ne manque guère son effet sur les honnêtes gens. Je ne saurais dire combien de fois j'ai vu un simple soldat esquiver une punition ou un mendiant attraper une bonne aumône grâce à son accent. Et en fait, aussitôt que l'Albanien eut ri de moi, je fus tout à fait tranquille. Même alors, il est vrai, il posa beaucoup de conditions, et entre autres, nous enleva nos armes avant de nous admettre à son bord. Ce fut le signal de l'appareillage, et un instant plus tard, nous filions sur la baie avec une bonne brise, bénissant Dieu de notre délivrance. Presque à l'entrée de l'estuaire, nous dépassâmes le croiseur, et un peu plus loin, la pauvre Sarah avec son équipage de prise, et la vue de ces deux navires était bien propre à nous faire trembler. Sur le Bermudan, toutefois, nous étions saufs, et la réussite de notre coup d'audace nous parut plus heureuse de nous rappeler ainsi le sort de nos compagnons. Malgré cela, nous n'avions guère que changé de piège, sauté de la poêle à frire dans le feu, couru de la vergue au billot, et fui l'hostilité ouverte du vaisseau de guerre pour nous en remettre à la bonne foi douteuse de notre marchand albanien. Plusieurs circonstances nous démontrèrent bientôt que nous étions plus en sûreté qu'on ne pouvait l'espérer. Les gens d'Albanie à cette époque s'occupaient beaucoup de la contrebande à travers le désert avec les Indiens et les Français. Ces trafics illégaux relâchaient leur loyauté et, les mettant en relation avec le peuple le plus policé de la terre, divisaient leur sympathie. Bref, ils étaient comme tous les contrebandiers du monde, espions et agents tout prêts pour l'un et l'autre parti. Notre Albanien, en outre, était un homme vraiment honnête et très avide, et pour mettre le comble à notre chance, il prit beaucoup de goût à notre société. Avant d'avoir atteint la ville de New York, nous avions fait une convention ferme qu'il nous emmènerait sur son navire jusqu'à Albany et de là nous mettrait sur le chemin pour gagner les frontières et les établissements français. Pour tout cela, nous eûmes à payer un bon prix, mais ce ne sont pas les mendiants qui choisissent, ni les hors-la-loi qui dictent les marchés. Nous remontâmes donc la rivière d'Hudson, un très beau fleuve à mon avis, et descendîmes aux Armes Royales, en Albanie. La ville regorgeait des milices de la province qui ne respirent que massacre contre les Français. Le gouverneur Clinton, un personnage très actif, y était aussi, et d'après ce que j'entendis, l'esprit factieux de son assemblée le rendait presque fou. Les Indiens des deux parties étaient sur le sentier de la guerre. Nous en vîmes des troupes qui ramenaient des prisonniers, et, ce qui était pire, des scalps d'hommes et de femmes, dont ils recevaient un bon prix. Mais je vous assure que cette vue n'était guère encourageante. En somme, nous ne pouvions arriver en un temps moins propice à nos desseins. Notre situation dans l'auberge principale était terriblement remarquable, notre Albanien nous lanternait de mille manières et semblait sur le point d'éluder ses engagements. Rien que des dangers, semblait-il, environnaient les pauvres fugitifs. Et pendant quelques jours, nous noyâmes nos soucis dans un train de vie fort désordonné. Cela même tourna à bien, et l'on a trop omis de remarquer, à propos de notre évasion, la manière providentielle dont tous nos pas furent conduits jusqu'au bout. Quelle humiliation pour la dignité humaine! Ma philosophie, le génie supérieur de Ballantrae, notre valeur, en laquelle nous étions, je crois, égaux, tout cela n'eût servi de rien si la bénédiction de Dieu n'eût secondé nos efforts. Et comme il est exact, selon ce que l'Église nous enseigne, que les vérités de la religion sont après tout applicables entièrement à nos affaires quotidiennes. Du moins, ce fut au cours de nos orgies que nous fîmes la connaissance d'un jeune homme d'esprit distingué, nommé Chu. C'était l'un des plus audacieux trafiquants indiens, très familier avec les pistes du désert, nécessiteux, dissolu, et, par une dernière chance heureuse, un peu brouillé avec sa famille. Nous lui persuadâmes de venir à notre aide, il apprêta en secret tout ce qui était nécessaire à notre fuite, et un beau jour, nous nous esquivâmes d'Albany pour nous embarquer un peu plus loin sur un canot. Pour raconter les fatigues et les périls de ce voyage et leur rendre pleine justice, il faudrait une plume autrement habile que la mienne. Le lecteur doit imaginer l'effrayante solitude qu'il nous fallait parcourir, fourrés, fondrières, rochers, précipices, rivières impétueuses et cascades fantastiques. Au milieu de ces paysages barbares, nous peignions tout le jour, parfois pagayant ou bien portant notre canot sur nos épaules, et la nuit, nous dormions près d'un feu, environnés des hurlements des loups et des autres bêtes féroces. Notre plan était de remonter l'Hudson jusqu'à sa source, au voisinage de Crown Point, où les Français ont un fort dans les bois, sur le lac Champlain. Mais il eût été trop périlleux de le faire directement. Aussi nous passâmes par un tel labyrinthe de rivières, de lacs et de portages que la tête m'en tourne à me les rappeler. En temps ordinaire, ces chemins étaient absolument déserts, mais le pays était alors en effervescence, les tribus sur le sentier de la guerre, les bois remplis d'éclaireurs indiens. À diverses reprises, nous tombâmes sur l'une ou l'autre de ces troupes quand nous nous y attendions le moins, et un jour en particulier, je n'oublierai jamais comment, au lever de l'aube, nous fûmes soudain entourés par 5 ou 6 de ces diables peinturlurés, poussant une manière de cri rauque et brandissant leur hachette. Cette rencontre fut inoffensive d'ailleurs, comme les autres, car Chu était bien connu et très apprécié des différentes tribus. C'était en effet un très honnête et respectable jeune homme, mais on peut croire que, même avec l'avantage de sa société, ces rencontres n'allaient pas sans un réel danger. En vue de prouver notre amitié, nous devions de notre part puiser à notre stock de rhum. Et d'ailleurs, au fond, sous toute espèce de déguisement, c'est toujours la véritable affaire du trafiquant indien de tenir un cabaret ambulant dans la forêt. Et quand une fois les braves ont reçu leur bouteille de scora, comme ils appellent cet abominable liquide, il convenait de nous mettre en route et de pagayer pour sauver nos scalps. Sitôt qu'ils avaient un peu bu, adieu toute convenance, il ne leur restait plus qu'une idée, avoir encore du scora. S'il leur avait aussi bien pris la fantaisie de nous donner la chasse et que nous eussions été rattrapés, je n'aurais jamais écrit ces mémoires. Nous étions arrivés à la partie la plus critique de notre trajet, où nous pouvions également nous attendre à tomber aux mains des Français ou des Anglais, lorsqu'il nous arriva un grand malheur. Chu fut pris d'un mal subit, offrant tous les symptômes d'un empoisonnement, et au bout de quelques heures, il expirait au fond du canot. Nous venions de perdre à la fois notre guide, notre interprète, notre batelier et notre passeport, car il était tout cela réuni, et nous nous trouvâmes réduits tout d'un coup et sans remède à la plus sombre détresse. Chu, qui s'enorgueillissait de son savoir, nous avait fait souvent des conférences géographiques, et Ballantrae avait dû les écouter. Mais pour ma part, ce genre d'enseignement m'a toujours causé un ennui souverain, et en dehors du fait que nous étions alors dans le pays des Indiens Adirondacks, et pas très loin de notre destination, si toutefois nous en avions trouvé le chemin, je ne savais rien d'autre. La sagesse de ma méthode apparut bientôt, car en dépit de toutes ces peines, Ballantrae n'était pas plus avancé que moi. Il savait bien que nous devions remonter un cours d'eau, puis par voie de portage, en redescendre un autre, puis en remonter un troisième. Mais il faut se rendre compte que, dans un pays de montagne, Une foule de cours d'eau ruisselle de toutes parts. Et comment un gentilhomme, un parfait étranger dans cette partie du monde, ira-t-il les distinguer l'un de l'autre ? Et ce n'était pas là notre unique souci. Nous étions très novices dans la manœuvre du canot, les portages dépassaient presque nos forces, à ce point que je nous ai vus rester accablés de désespoir pendant toute une demi-heure, sans dire un mot, et l'apparition d'un unique Indien, depuis que nous n'avions plus le moyen de converser avec eux, aurait amené fort probablement notre perte. Il n'est donc pas trop étonnant que Ballantré fût d'une humeur plutôt sombre. Son habitude de rejeter la faute sur des gens tout aussi capables que lui s'accrut de façon intolérable et son langage devint parfois inadmissible. Auparavant déjà, il avait contracté à bord d'un bateau pirate une manière de vous parler des plus inusitées entre gentlemen. Et à cette époque, lorsqu'il était un peu fébrile, cette façon s'accentuait chez lui jusqu'à l'excès. Le troisième jour de ses tribulations, tandis que nous remontions un portage au milieu des rochers avec le canot sur nos épaules, celui-ci tomba et fut entièrement défoncé. Le portage menait d'un lac à l'autre, tous deux fort étendus. La piste à peine visible aboutissait à l'eau, des deux extrémités et à droite comme à gauche, la forêt vierge l'entourait. De plus, les bords des lacs étaient vaseux et absolument impraticables. Ainsi, nous étions condamnés non seulement à nous passer d'embarcation et de la plus grande partie de nos provisions, mais à plonger dans les fourrés impénétrables et abandonner le dernier fil conducteur qui nous resta, le cours de la rivière. Nous mîmes chacun nos pistolets à nos ceintures, une hache sur l'épaule, nous fîmes un ballot de nos richesses et d'autant de vivres que nous en pouvions porter, et abandonnant le reste de notre avoir, jusqu'à nos épées, qui nous auraient beaucoup gênés parmi les bois, nous entreprîmes cette déplorable aventure. Les travaux d'Hercule, si bien décrits par Homère, étaient une bagatelle comparée à ceux que nous subissions. Certains endroits de la forêt étaient un parfait massif jusqu'au niveau du sol, et nous devions nous y frayer un chemin comme des vers dans un fromage. Ailleurs, le terrain était profondément marécageux et les arbres tout à fait pourris. J'ai sauté sur un grand fût renversé par terre et m'y suis enfoncé jusqu'aux cuisses comme dans de l'amadou. Une autre fois, en tombant, je voulus m'appuyer contre ce qui avait l'air d'un tronc solide, lequel, sous mon toucher, céda comme une feuille de papier. Trébuchant, tombant, nous enlisant jusqu'aux genoux, taillant notre chemin à la hache, à demi éborgnés par les épines et les branches, les vêtements en lambeaux, nous peinâmes tout le jour, et je doute que nous ayons fait 2 miles. Le pis, c'est que nous pouvions rarement jeter un coup d'œil sur les alentours, et que nous étions perpétuellement détournés de notre chemin par des obstacles, d'où il nous était difficile d'avoir le moindre indice sur la direction suivie. Peu avant le coucher du soleil, dans une clairière au bord d'un cours d'eau et environnée de montagnes farouches, Ballantré jeta son chargement par terre. « Je ne vais pas plus loin, » dit-il. Puis il m'ordonna d'allumer du feu, maudissant ma race en termes peu propres à un homme bien élevé. Je le priai d'oublier qu'il eût jamais été un pirate et de se souvenir qu'il avait été un gentilhomme. « Êtes-vous fou ? » s'écria-t-il. « Ne me contrariez pas aujourd'hui. » Puis, montrant le poing aux montagnes, « Quand je songe, » s'écria-t-il, « que je vais laisser mes os dans ce misérable désert. Plût à Dieu que je sois mort sur l'échafaud en bon gentilhomme. » Il déclama cette phrase comme un acteur, puis il s'assit, mordant ses poings, les yeux fixés sur le sol, l'air aussi peu chrétien que possible. Il m'inspira une véritable horreur, car je pensais qu'un soldat et un gentilhomme auraient dû envisager sa fin avec plus de philosophie. Je ne lui répliquai pas néanmoins, et comme la nuit tombait glacée, je fus bien aise d'allumer du feu pour mon propre compte. Dieu sait cependant que, dans un lieu aussi découvert et avec le pays plein de sauvages, c'était là presque un acte de folie. Ballantré ne semblait pas me voir, mais à la fin, comme je faisais griller un peu de blé, il leva les yeux. « Avez-vous jamais eu un frère ? » demanda-t-il. « Par la permission du ciel, dis-je, pas moins de 5. Je n'en ai qu'un, reprit-il d'une voix bizarre. Et aussitôt, il me paiera tout ceci, ajouta-t-il. Et quand je lui eus demandé quel rôle jouait son frère dans notre malheur, « Comment ? » s'écria-t-il. « Il a pris ma place, il porte mon nom, il courtise ma femme, et me voilà seul ici avec un damné Irlandais à claquer des dents au fond de ce désert. Oh, quelle vulgaire dupe je fais !» Cette sortie était de tout point si opposée au caractère de mon ami que la stupéfaction émoussa mon juste ressentiment. Et puis, une expression injurieuse, même vive, apparaît une bien petite affaire en des conjectures aussi angoissantes. Mais il faut noter un point singulier. Une seule fois auparavant, il avait fait allusion à la dame, sa fiancée. Nous arrivions alors devant New York, et il me dit que, s'il avait joui de ses droits, il était alors en vue de sa propriété, car Miss Alison Grimm possédait dans cette province des biens considérables. L'occasion était sans doute naturelle ce jour-là, mais aujourd'hui qu'il nommait la dame pour la seconde fois, se produisait une coïncidence bien digne de remarque. En ce même mois de novembre 1747, et je crois ce même jour où nous étions perdus au milieu de ces montagnes farouches, son frère épousait Miss Graham. Je suis le moins superstitieux des hommes, mais le doigt de la Providence est ici trop visible pour n'en point faire l'observation. Le jour suivant, puis l'autre, se passèrent en travaux analogues. Ballantrae décidait à pile ou face de notre direction, et une fois, comme je lui reprochais cet enfantillage, il me fit une réponse que je n'ai jamais oubliée. C'est le meilleur moyen que je connaisse d'exprimer mon dédain de la raison humaine. Ce fut, je crois, le troisième jour que nous découvrîmes le cadavre d'un chrétien, scalpé et affreusement mutilé, gisant dans une mare de son sang. Les oiseaux du désert s'acharnaient sur lui à grands cris, aussi nombreux que des mouches. Je ne saurais dire à quel point ce spectacle nous fut odieux. En tout cas, il me fit perdre mes dernières forces et tout espoir de ce monde. Le même jour et peu après, nous traversions péniblement une partie de la forêt qui avait brûlé, quand je vis soudain Ballantrae qui me précédait se baisser derrière un tronc abattu. Je le rejoignis dans sa cachette, d'où l'on voyait aux alentours sans être vu, et au fond du ravin proche, je découvris une forte troupe de sauvages armés en guerre, dont la marche allait couper notre chemin. Il y avait là peut-être l'équivalent d'un bataillon. Leurs torses étaient nus, enduits de graisse et de noir de fumée, et peinturlurés de céruses et de vermillons, suivant leur coutume barbare. Ils s'avançaient l'un derrière l'autre à la file, comme des oies, et à un petit trot assez rapide, de sorte qu'ils mirent peu de temps à passer et à disparaître de nouveau parmi les bois. Pourtant, je crois bien que nous souffrîmes une plus forte torture d'hésitation et de suspense au cours de ces quelques minutes qu'il n'en tient d'ordinaire en toute la vie d'un homme. Ces Indiens étaient-ils français ou anglais? Voulaient-ils des scalps ou des prisonniers? Devions-nous à tout hasard nous montrer ou rester cachés pour continuer ensuite notre démoralisant voyage? Ces questions auraient mis en échec le cerveau d'Aristote lui-même. Ballantrae se tourna vers moi. Un rictus affreux lui tordait la bouche et laissait voir ses dents, comme j'ai lu que cela se produit souvent chez ceux qui meurent de faim. Il ne dit rien, mais toute sa personne semblait poser une question redoutable. « Ils sont peut-être du parti anglais, chuchotai-je. Et songez alors, ce que nous aurions de mieux à espérer, ce serait de recommencer pareille évasion. »« je sais, » dit-il. « Cependant, il faut en finir. » Et soudain il tira son éternelle pièce de monnaie, l'agita dans le creux de ses mains, regarda, puis se coucha la face dans la poussière. Addition de Mr. McKellar. J'abandonne le récit du chevalier, parce que tous deux se querellèrent et se séparèrent le même jour. Et la façon dont le chevalier rapporte ses querelles me semble, je dois l'avouer, tout à fait incompatible avec le caractère des deux personnages. Par la suite, ils errèrent isolément et connurent des souffrances indicibles. À la fin, l'un puis l'autre furent recueillis par une patrouille du fort Saint-Frédéric. Il n'y a plus à ajouter que deux choses. Primo, et c'est ce qui importe surtout à mon récit, le maître, au cours de ses tribulations, enterra ses richesses en un point qui n'a pas été retrouvé, mais dont il leva la topographie, à l'aide de son propre sang, sur la doublure de son chapeau. Et secondo, en arrivant ainsi sans le sou au fort, il fut accueilli comme un frère par le chevalier, qui plus tard lui paya son retour en France. La simplicité de caractère de Mr. Burke l'induit à cet excès de louer le maître. À des yeux plus mondainement sages, il semblerait que le chevalier seul fût digne d'éloge. J'ai d'autant plus de plaisir à citer ce noble trait de mon honorable correspondant que je crains de l'avoir blessé quelques lignes plus haut. Je me dispense de tout commentaire sur aucune de ses opinions si extraordinaires et, à mon sens, immorales, car je le sais fort pointilleux en matière de respect. Mais sa version de la querelle dépasse vraiment ce que je puis reproduire, car j'ai moi-même connu le maître, et on ne peut imaginer homme moins susceptible de crainte. Je déplore cette négligence du chevalier, et d'autant plus que l'allure de son récit, à part quelques fioritures, me frappe par sa haute ingénuité.